déjà.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Le proton se rebiffe. La nouvelle émission sur Radio Libertaire, une rencontre entre la science et l'écologie.
On y est déjà ? Bonjour tout le monde, nous y sommes déjà légèrement pris au dépourvu, mais vous êtes quand même sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et évidemment sans la moindre publicité. Ce soir, c'est le proton se rebiffe et nous avons un invité que vous aviez déjà dans une émission il n'y a pas longtemps aujourd'hui, dans Trou Noir, Édouard Jourdain.
Bonjour.
Et je vais supplier Christiane, c'est très très fort dans nos casques, mais alors très 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 fort. Alors en fait c'est que Christiane a un plan secret d'assassinat. Alors là j'entends plus rien. Excusez-nous. On va y arriver. Là, pour l'instant.
Vous êtes en direct.
Hein? Nous sommes en direct, il n'y a pas de doute. Et là, moi, j'entends plus rien dans mon casque.
Bon. Et là,
Toujours pas. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous m'entendez tout d'un coup pousser un cri d'horreur, c'est qu'il y aura un giclée de son qui me percera les tympans. Je n'entends toujours rien.
Et là ?
Pas grand-chose. Vous inquiétez pas, l'émission va commencer dans un instant. Ah, c'est mieux. Voilà, un peu plus fort. Ah, c'est parfait. Oh, ça fait du bien, là, comme ça.
C'est parti,
c'est un réchaud. Alors, la raison pour laquelle j'ai invité à venir dans cette émission, dont la technicienne sera Christiane, et qui se terminera avec la revue des infos du Proton tenue par Lulu. Eh bien, j'ai donc voulu inviter Édouard Jourdain parce qu'il a écrit deux livres qui m'ont intéressé à deux titres différents. Et le premier livre d'Édouard Jourdain qui m'intéresse, il a un titre un petit peu compliqué. « Quelles normes comptables pour une société du commun ?» Édouard, c'est toi qui as choisi le titre ?
Non, c'est pas moi, je te rassure. Ça a été toute une bataille avec l'éditeur. Moi, à l'origine, je voulais un titre un peu plus poétique qui aurait été « L'écriture de la valeur ». Mais on m'a dit « Écoute, ça sera beaucoup trop abstrait, beaucoup trop poétique, on ne saura pas de quoi ça parle, et on est une cible, on est une niche, là, peut-être que ça peut intéresser les comptables, donc il faut qu'on parle de comptabilité, de normes comptables, et puis commun, c'est un petit peu dans le vent, ça peut marcher. » J'ai bataillé, j'ai perdu la bataille, je t'avoue, mais voilà, le livre existe, donc j'ai réussi à garder ce titre de l'écriture de la valeur en introduction, quand même.
Magnifique. Alors, effectivement, une fois qu'on y passe du temps, qu'on décide de donner du temps de neurones disponible à la chose, on s'aperçoit que écriture de la valeur, c'est tout à fait important pour comprendre ce livre. Le deuxième livre dont on parlera, incidemment, il est publié chez Charles, les éditions Charles Léopold Mayer. Mayer comme Mayerling, M-A-Y-E-R. Et le deuxième livre dont nous allons parler ce soir, c'est Théologie au singulier du capital. Donc évidemment, les liens forts et étroits entre religion et fric. et c'est publié aux Presses universitaires de France, au PUF. Et là, le titre est quand même nettement plus parlant. Alors, pour attaquer tout de suite le livre « Quelles normes comptables pour une société du commun ?»
J'ai une question d'emblée. Je me demandais si tu allais nous parler de chiffres.
Non.
Bon, parce que là, j'ai un truc, tu vois, on prête aux chiffres une capacité à énoncer des faits et à les attester en écartant tout doute et toute contestation. Je me suis dit, non, si Sradin pour nous faire une leçon là-dessus, là, il va y avoir des problèmes. Donc, c'est non. Hein.
A priori, non. Mais après, les chiffres sont importants. Mais...
Je vais te passer le livre.
Mais, voilà, y a, le chiffre est aussi une interprétation, toujours, enfin, en tout cas, une substance qui va servir à des fins politiques. C'est en cela que ça m'intéresse.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, tout au début de ce livre, question, quelles normes comptables pour une société du commun, Édouard Jourdain dit, et c'est tout à fait juste, il existe en effet autant de modèles comptables que de représentations du monde, virgule, autrement dit, de ce qu'il paraît juste à une société de valoriser. Et tu viens juste de nous révéler que tu aurais voulu avoir comme titre l'écriture de la valeur. Et là, je me suis dit immédiatement, ah, ça, c'est quand même très très intéressant, parce que on sait bien que l'un des mots codés qui permettent de déterminer si quelqu'un est de droite ou de gauche, hein, c'est quelque chose que les humoristes utilisent très souvent, c'est la personne de droite qui dit méprisante, nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Oui.
Et bien entendu, elle l'entend dans un certain sens, et dans un sens financier, c'est en général exact. Car la personne de droite a souvent des valeurs qui ne sont pas possédées par les pauvres gens de gauche. Et donc, tu ajoutes après, la comptabilité constitue un véritable miroir de la société dans son organisation des rapports de production et de consommation, ainsi que dans ses choix d'allocation du capital. Alors, je rappelle que là, le capital est censé être, ben, tout simplement, la réserve des moyens d'échange qui permettent d'ordonner et de décider l'action. Puis alors, tu dis quelque chose d'encore plus intéressant. Elle s'inscrit ainsi dans une cosmologie, voire une anthropologie, qui dépasse la simple opération au trésor. Alors, je vois de loin la tête de Christiane. C'est tout à fait clair comme phrase. C'est-à-dire que là, Édouard dit, et à mon sens, il a complètement raison, que la comptabilité, en fait, elle n'existe que parce qu'on a posé dès le départ des préjugés, des notions, des prémices sur qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que l'être humain, et que cette chose, la comptabilité, qui semblerait simplement être le fait de compter combien de haricots on a dans le sachet, c'est en réalité beaucoup plus compliqué. Pourrais-tu développer la chose ?
Oui, alors... en effet, ce qui est important de comprendre quand on parle de comptabilité, vraiment pour être le plus simple possible. Dans l'étymologie de comptabilité, il y a le terme de compter. Bon, déjà. Mais dans le fait de compter, il faut savoir qu'est-ce qu'on compte.
Bon. On ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Voilà, mais c'est déjà une question, en réalité. Donc derrière la notion de comptabilité... Il y a à savoir que compte-t-on. Bon. Et ça va dépendre de beaucoup de sociétés dans l'histoire, en fonction des régimes politiques, etc. Autrement dit, la comptabilité, c'est qu'est-ce qu'on va définir comme ce qui est capital. Alors là, le grand terme est lancé. Hein. C'est la comptabilité, c'est avant tout compter ce qui est capital. Bon. Et alors, à partir de là, il y a quelque chose de très intéressant, alors d'ailleurs que même des gens comme Karl Marx n'ont pas compris, c'est que le capital, en réalité, à l'origine, ne se réduit pas au capital financier. Donc le capital, c'est au sens étymologique du terme, ce qui compte, ce qui est capital, ce qui est important, ce qui a de la valeur.
Ça a peut-être un petit lien avec caput, les têtes.
Oui, alors en effet...
Les têtes de bétail.
Les têtes de bétail, qui est dans les premières comptabilités, en effet, la comptabilité à l'origine, ça va faire... C'est ça qui est passionnant avec la compta, c'est que à la fois, on a avec ce système l'origine de l'écriture et de la monnaie. Donc, avec notamment les sacrifices, donc les sacrifices de bétail, donc qui vont donner lieu à des têtes, le caput, le capital, eh bien, ça va être comptabilisé dans une monnaie de stock qu'on va inscrire à la comptabilité. Et donc, à partir de là, ben, tu avais plusieurs professionnels de compte, alors qu'ils pouvaient avoir une dimension plus ou moins sacrée, mais dont ce qui avait donc de la valeur était enregistré sur un carnet de compte qu'on va inscrire. Et ensuite, ce capital, eh bien, pouvait... alors, au-delà du sacrifice, mais même avec la comptabilité des céréales, des denrées diverses et variées, pouvait être redistribué. Bon.
Et femmes aussi, hein.
Et des femmes, peut-être.
Ben oui, parce qu'il y a des femmes qui se monnaient avec des chameaux ou des chèvres.
Alors, les épouses permanentes et les épouses transitoires, alors c'est pareil, on pourrait dire les prostituées permanentes et les prostituées encore plus permanentes, les épouses, enfin bref, glissons. Continuons.
Mais du coup, ce qui est intéressant aussi avec le système de la comptabilité, c'est nous dire en fait qu'à l'origine, d'ailleurs, la monnaie, c'est pas quelque chose qui va relever de l'échange. Au sens d'Adam Smith, tu sais, on a le mythe de la monnaie comme échange pour le troc. On échange un produit contre un autre produit. Mais non, en réalité, c'est pas du tout ça. La monnaie, c'est avant tout une monnaie de stock qui va servir à la redistribution qui est enregistrée dans une comptabilité auprès d'une institution, d'un temple, etc. Et à partir de là, il y a une redistribution communautaire.
C'est que je sens qu'on va en reparler un petit peu plus loin.
C'est que
de
très
ces
plus
liens
tard,
incestués dès le départ entre religion et capitalisme.
Donc c'est continue. Que très plus tard, en réalité, ou marginalement, qu'il va y avoir cette idée de monnaie marchandise. Bon, bref. Et donc, la comptabilité va pouvoir évoluer, en quelque sorte. Notamment, il y a un point historique qui est très important, qui est ce qu'on appelle la comptabilité en partie double, qui est celle sur laquelle on fonctionne toujours aujourd'hui dans nos sociétés modernes capitalistes, et qui va consister à faire deux colonnes, ce qu'on appelle l'actif et le passif. Et donc, le passif, ça va être avant tout une dette.
Bon. Attends, juste moi, là-dessus, c'est l'une de mes difficultés à moi dans la vie.
D'accord.
L'actif et le passif, j'ai jamais compris. Donc, s'il te plaît, explique-nous. Alors, c'est très bien, parce que pour l'instant, tu démarres en parlant français. C'est
d'accord,
admirable.
Mais je vais essayer.
Donc,
moi-même,
expliquer ce que c'est l'actif et le passif.
Moi-même, je ne suis pas comptable.
En français.
Très bien.
Qu'est-ce que c'est que le passif?
De manière la plus... comment dire, la plus triviale possible. L'actif, ça va être des ressources. Donc, c'est des choses que tu possèdes. Tandis que le passif, ça va être une dette. Donc c'est quelque chose que tu empruntes à l'origine.
C'est quelque chose que toi tu dois à quelqu'un d'autre.
C'est quelque chose que toi tu dois à quelqu'un d'autre.
C'est pas ce que les autres te doivent, c'est ce que toi tu dois à quelqu'un d'autre.
Exactement. Bon, d'accord. Exactement. Voilà. Donc l'actif, c'est ce qui te permet, si on veut reprendre l'étymologie, c'est ce qui te permet d'agir parce que tu as des ressources pour. Mm-hmm. Le passif, c'est parce que tu es endetté de quelque chose.
Et donc, ton action ne te bénéficiera pas à toi, mais bénéficiera à ton créancier.
Oui. En gros, c'est ça.
D'accord. Bon.
Mais du coup, dans l'idée de la comptabilité en partie double, et qui va faire ces deux entrées, en fait, en quoi c'est un instrument qui va être fondamental dans l'économie moderne? c'est que ça te permet, en réalité, de t'endetter pour investir, pour créer des entreprises. Bon. Donc, parce que avant, on était plus ou moins à flux constant, c'est-à-dire qu'on pouvait créer quelque chose qu'à partir d'actifs et de ressources propres, alors qu'à partir de ce moment-là, de la comptabilité aux parties doubles, on est en 12e, 13e siècle.
Excuse-moi de t'interrompre, je commence à comprendre.
Il y a cette idée qu'en fait, on peut miser en fait, sur l'avenir. On investit, on demande. C'est là où le prêt se développe et la notion de dette énormément.
Attends. Donc, si j'ai bien compris, avec l'histoire du passif, l'idée qu'au lieu d'agir en père de famille qui fait très attention à son
mère
argent,
de famille, merci.
Aux mères de famille aux aussi.
Mères de famille.
Oui, très souvent dans plein de civilisations, c'était les mères de famille qui géraient les ressources financières et donc on ne dépense que ce qu'on a déjà.
Voilà.
Le capitalisme en tout cas invente cette idée géniale.
Ouais.
Qu'au lieu de travailler avec l'argent qu'on a, on va travailler avec l'argent d'autrui, qui est un argent quasiment virtuel.
Exactement.
Et que, par exemple, ce qui se passe dans les économies modernes, donc on emprunte pour acheter une entreprise, on fait diminuer ses dépenses environ tous les personnels, tous les machins, tous les trucs, et puis une fois que l'entreprise apparemment gagne beaucoup d'argent, mais c'est juste très éphémère, crac, on la revend, on repaye la dette, on a fait un bénéfice, on a viré les trois quarts du personnel.
Voilà.
C'est un peu l'idée. Bon, c'est parfait, je crois.
Et là, c'était quand ? Il y avait encore l'esclavage à ce moment-là ? Tu peux situer un peu dans le temps ?
Oui, là, on est au XIIIe, XIVe siècle. Alors, évidemment, tu as toujours de l'esclavage. Alors après, sur le continent européen, en fonction des pays, c'est à peu près à cette même époque qu'il y a l'interdiction de l'esclavage sur le sol. Donc, est-ce que c'est lié au développement ? Alors, je ne pense pas que ce soit lié au développement du capitalisme, mais en tout cas, il y a un moment, notamment aussi dans le christianisme, où il y a cette idée que l'esclavage ne peut plus exister sur le territoire. Après, le rapport à l'esclavage, il est assez complexe, notamment à la notion de propriété. Il y en a qui disent, des anthropologues qui disent que la notion de propriété est liée aussi à l'esclavage. Bon, mais je suis pas sûr que ce soit complètement. Enfin, je pense pas que ce soit lié à la comptabilité. En tout cas, pas directement.
Rappelons simplement du point de vue historique que tu rappelles effectivement dans ton livre que la comptabilité en partie double, c'est une invention italienne d'à peu près la fin des années 1300, début des années 1400.
C'est ça.
Et qu'il y a un gars, un Italien, qui pond un manuel de comptabilité en partie double.
Ouais.
Et que tout
ça
le monde se
s'appelle Pacioli. Après, il y a eu Datini aussi qui l'a formalisé, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça coïncide presque à l'année près avec ce que les historiens vont considérer comme une date butoir pour la naissance de la modernité, qui est 1492, Christophe Colomb qui découvre les Amériques. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Mais alors, pour revenir sur juste un petit peu sur cette notion de actif-passif, mais très le plus simplement possible, ce qu'il y a à retenir peut-être, c'est que là, avec cette comptabilité en partie double, il va y avoir cette idée que les entreprises peuvent et doivent se développer avec cette idée d'investissement qu'on va avoir grâce à l'emprunt, comme tu l'as très bien résumé. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que pour eux, tu vois, comme je te disais là, en début d'émission, ce qui compte avant tout, c'est le capital financier. C'est ça qui va avoir de la valeur, qu'on va mettre au passif parce que c'est la dette, dans la mesure où c'est ce qu'on va emprunter pour augmenter les actifs de l'entreprise, etc., la développer, machin chose. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut, financier dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut toujours essayer de faire en sorte de rembourser. Donc c'est le capital financier qu'il faut préserver, c'est la chose qui a le plus de valeur à nos yeux, dans la mesure où sans ce capital financier, l'entreprise ne peut plus marcher.
Alors,
c'est pour ça, d'où l'importance aussi des actionnaires, etc.
Bon. Si je comprends bien, c'est un tour de passe-passe où on transforme une dette qui semble quelque chose de négatif en un instrument qui permet de démultiplier son capital.
C'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet levier.
Voilà, son capital positif. Mmh. Et ça, c'est le coût classique du transfert de richesse d'une partie de la population vers une autre partie de la population. Mmh. Et donc, cette chose apparemment très simple qu'est la comptabilité, cette chose apparemment très très neutre, donc ça signifie que dès le départ, la comptabilité en partie double est de manière inhérente, fondamentale,
elle est politique, elle est complètement idéologique, dans la mesure où on va considérer que le sujet de l'économie, c'est l'investisseur. Et ça va même plus loin, enfin au-delà du sujet de l'économie, c'est le sujet qui va représenter l'intérêt général. Et c'est quelque chose qu'on a toujours actuellement auprès de, notamment de cabinets, alors il faut savoir notamment...
McKinsey ?
Alors, non, c'est pas celui-là, mais c'est un cabinet qui est à Londres aussi et qui produit ce qu'on appelle les normes IFRS, qui sont les normes comptables internationales. Je vais trop vite.
Pareil, il a un merveilleux chapitre dans son livre où il m'a fait découvrir quelque chose que j'ignorais. La comptabilité, on croirait qu'il y a des tas de normes comptables dans tout un tas de pays différents, comme il y a des tas de langages différents. Non, il y a donc ce que tu décris, c'est cette autorité.
On n'est même pas dans du droit, ce qu'on appelle le droit mou, du soft power, machin. C'est du droit dur. C'est quelque chose qui est constitutionnellement établi, qui est accepté par l'Europe via ce qu'on appelle les frags, où les gars estiment que, étant donné que c'est des experts en comptabilité, il faut l'accepter de but en blanc. Donc c'est quelque chose qui ne se discute absolument pas, même au sein de l'Union européenne avec la Commission, etc. Quelque chose qui est accepté de but en blanc par les propositions de ce cabinet. Et ça, toutes les entreprises, enfin en tout cas moyennes et grandes, doivent les respecter.
Donc je précise pour les auditeurs, les normes de comptabilité dans tout l'univers, au minimum occidental, mais en réalité maintenant quasiment partout, les normes de comptabilité sont décidées par une entreprise, par une institution qui n'est élue
par personne,
qui est indépendante des États, mais qui réussit en même temps à fixer ses propres normes à tous les États.
Exactement.
Et tu développes dans un de tes chapitres le fait que, en réalité, on a poussé la chose tellement loin que, quand il y a des procès, c'est aux États à faire la preuve qu'ils respectent les normes édictées par cette institution privée. Et on sait ce que ça signifie, privé, dans ces cas-là.
Ouais, complètement. Et au point même que ça va au-delà des entreprises privées, c'est-à-dire que maintenant, tu as même des normes publiques, qu'on appelle les IPSAS, qui doivent suivre ces normes privées aussi.
C'est-à-dire se calquer carrément ?
Pardon ?
Les accepter, se calquer carrément sur le.
Ah, c'est même pas calquer, c'est les reprendre.
Mais alors,
texto.
Attends, avec... qui sont ces personnes qui décident ?
Alors, il y a plusieurs canaux de distribution, mais ça part d'un cabinet privé en Angleterre, ça passe par les frags, ensuite par certaines institutions nationales, mais encore. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste des chambres d'enregistrement. Hein, parce qu'on va considérer que ça relève d'une expertise qui est trop technique, dont le politique ne peut pas s'emparer. Bon. Toutes ces institutions vont considérer que le représentant de l'intérêt général est l'investisseur. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, en réalité.
Excuse-moi à nouveau de t'interrompre. Ouais. Donc, ça veut dire que si on considère que le sujet de l'économie, alors le sujet au sens de subjectif, de l'acteur principal, de la personne essentielle de l'économie, c'est l'investisseur, donc ça n'est pas le producteur, c'est encore moins le consommateur. Non. L'usager, c'est encore moins l'être humain hors du capitalisme ou hors du pays en question. La seule personne qui compte, c'est la personne qui possédait ou qui a emprunté un capital.
Des capitaux financiers.
Et qui l'a investi quelque
c'est
part.
Tout. C'est tout.
C'est le seul
et ça, c'est le credo, c'est le béaba de toutes les normes comptables. C'est-à-dire, c'est le cœur nucléaire de tout le fonctionnement de l'économie, qui passe complètement à l'as. Donc, d'ailleurs, les économistes, bon, voilà, ils parlent d'offres et demandes, du marché, des services publics, machin. En réalité, il y en a très peu qui s'intéressent à la comptabilité, alors que c'est le cœur nucléaire du truc. Et il y a très peu d'économistes qui connaissent quelque chose à la compta, ce qui est dingue quand même, parce que c'est vraiment le cœur de beaucoup de choses. Parce que c'est là où tu as la question de la valeur. Pourquoi le capital financier, par exemple, est le seul au passif entendu comme dette ? C'est-à-dire que pour les théoriciens économiques du XVIIe, XVIIIe siècle, par exemple, la nature, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans l'équation économique au sens où ça n'a pas à être pris en compte comme valeur. Pourquoi ? Parce que la nature, c'est quelque chose dont la ressource est abondante. Donc, étant donné que l'économie est axée sur la rareté, pour eux, il n'y a aucun intérêt de prendre en compte la nature. Tu vois. Donc, pour eux, il n'y a pas du tout cette idée que la nature peut être considérée comme dette si on l'exploite.
Moi, je me souviens de mes départs de cours d'économie au lycée, où évidemment, l'économie, eh bien, c'était la science de la répartition de la rareté. Ouais. Mon cul!
Bye.
Petit garçon né blanc, avantage à la naissance, réfète spéciale pour ça, j'ai pas de mode d'emploi, juste né là où il faut, dans l'hémisphère, dans pour celui qui mange, celui du bas, pour en devenir toujours plus gras. Alors peut-être même que dans 30 ans, je serai riche et plus important, je pourrais même faire les lois et être au-dessus à la fois. Être parmi les 1% et garder tout le monde de haut. Autant dépossède tous les autres. De partout t'as dit ce que fait la police. Quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera. Mais tralali, tralala, on les écoute pas. Et tralali, tralala. Toi et moi là-bas, toi et moi je sais que l'on refera ce monde en progrès. Toi et moi là-bas, toi et moi je sais qu'un jour on sera tous égaux en droit et en fait.
On me suit pas comme une quand je rentre seul après minuit, pas besoin d'acheter de tampons alors que ça devrait être gratuit. Et quand je dis non, c'est d'accord, peu importe comment je m'habille. J'ai pas d'injonction au corps, ni un fond et une famille.
Et j'évite tout faciès, les contrôles, les mains aux fesses. Social est la logique, on voit qu'elle est pas symétrique.
Mais partout t'attises, ce que fait la police. Quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera. Mais tralali, tralala, on les écoute.
Serait presque un talent, rien fait spécial pour ça. J'ai toujours pas de mode d'emploi. Alors à tous ces avantages, ça vous dit, on les partage. À qui a ça en commun d'être un humain ?
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître, sans publicité, avec pas des masses de normes comptables. Faut dire la chose comme elle est. Et nous écoutons donc le Proton se rebiffe avec pour invité Édouard Jourdain, et on va parler de deux. On est déjà en train de parler de son premier livre là.
Petite minute, je n'ai pas désannoncé la musique. Je suis désolée, pardon. Donc le proton. Ce premier morceau, c'était donc Petit garçon de l'aimant.
Splendide. Donc le livre dont nous parlons à l'heure actuelle, c'est Quelles normes comptables pour une société du commun, par Édouard Jourdain, publié chez Charles Léopold Mayer, et nous parlerons un peu plus tard de théologie du capital. Alors on a évoqué le fait que en réalité la comptabilité, qui semble cette espèce d'activité un petit peu presque ésotérique et pas très importante, un truc un peu poussiéreux, est en réalité à la fois le révélateur, l'instrument est le moteur de toute une anthropologie, c'est-à-dire de toute une conception de l'homme. Édouard vient de nous expliquer que pour la comptabilité, eh bien, il n'y a qu'un seul sujet qui compte, à la fois, comme on dit, le sujet d'une rédaction, mais également surtout le sujet d'une action, la personne qui est celle qui agit, et c'est l'investisseur. Et Christiane se posait la question, oui, mais c'est qui l'investisseur ? Édouard, souhaiterais-tu juste dire en une phrase, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un investisseur ?
L'investisseur, il peut être vraiment de multiples profils. Ça peut être des grands investisseurs, comme tu as des grands fonds financiers, comme BlackRock, etc. Comme tu peux avoir le petit investisseur moyen, lambda, qui fout 50 balles dans une action. Hein. Donc, il peut être très multiple. Mais en tout cas, c'est lui qui, in fine, va avoir le gros pouvoir. Alors, tu posais en off la question de l'intelligence artificielle. Bon, mais l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil, c'est-à-dire que ça va être souvent un bot, un robot qui va permettre, en fonction des flux, qui va essayer de prédire en fonction des ordres donnés, hein, de donner des ordres pour investir dans tel ou tel domaine, telle ou telle entreprise, tel ou tel fonds. Mais l'investisseur, ça va être celui qui a tout simplement un capital financier qui va le mettre dans telle ou telle entreprise.
Souvenons-nous en même temps de quelque chose de très astucieux et de très dangereux que le capitalisme a créé très tôt, qui sont les sociétés par action. C'est-à-dire que là où le capitalisme réussit à avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est qu'il dit qu'il faut protéger le capitalisme parce que l'investisseur... Quelle personne noble. L'investisseur prend un risque. Encore plus, s'il prend une dette, il prend un risque. Et donc, on a inventé les sociétés à responsabilité limitée, où on va créer une société, il peut lui arriver des tas de choses très désagréables, mais les différents actionnaires qui peuvent décider d'avoir l'intégralité du profit s'ils le veulent, en revanche, si la société fait faillite, si elle a des dettes, ils ne seront responsables de ces dettes que, non pas dans la mesure de la dette prise, mais dans la mesure de l'investissement initial qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'à nouveau, tu es actionnaire, tu as investi 100, tu as emprunté 1000, tu ne rembourses rien, mine de rien, les 1000 pendant ce temps-là, tu te les as servis en salaire, en tout ce que tu veux. Ah puis zut, c'est ennuyeux, tu fais faillite, eh bien, on te demandera juste de rembourser.
Donc, pour coup, la responsabilité est très limitée. Extrêmement limitée. Alors, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, moi je m'intéresse là d'autant plus, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que l'histoire aussi de ces sociétés par action, à responsabilité mais limitée, elle est passionnante. Elle est passionnante. Est-ce que vous savez à peu près quand ça arrive ?
Dis toujours.
Bah, ça arrive à peu près au 16e siècle avec la société des Indes orientales anglaises.
Voilà, c'est les Anglais.
Et cette société, c'est dingue parce qu'en fait, elle a le pouvoir d'un État. C'est une société qui se barre en Inde, qui a son armée, qui est en train de construire en fait l'empire que va récupérer après les Anglais. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive au même moment que la théorie de la souveraineté qu'on va retrouver avec Hobbes. Et je pense, moi je suis en train de travailler là-dessus, et de voir par où ça passe, cette question de souveraineté, au sens politique du terme, moderne, et la société par action à responsabilité.
Alors, je rappelle pour éclairer ce que vient de dire Édouard, donc Hobbes, c'est ce théoricien anglais qui dit quasiment que la société, ça n'existe pas, que la seule chose qui existe, c'est l'individu, que la seule chose qui existe dans l'individu, c'est son appétit de pouvoir et de domination d'autrui, et qui passe par exemple, la monnaie. C'est lui qui crée, ou qui reprend cette phrase célèbre, homo homini lupus, est un loup pour l'homme, et qui justifie donc l'existence de l'État en disant il faut qu'il y ait une autorité supérieure qui empêche les gens de se bouffer les uns les autres. Mais donc cette vue de l'être humain comme uniquement réduit à son processus d'acquisition et de domination, c'est très exactement la même chose que ce que tu décris comme étant le cœur de la comptabilité, l'être humain réduit à sa fonction d'investisseur. Et donc là, on voit que ces choses-là se tiennent là, par la main, très bien.
En effet, comme tu le dis, on part de l'individu seul et isolé qui va vouloir maximiser son intérêt. Alors avec Hobbes, c'est en termes de sécurité. Avec l'entreprise et la comptabilité, ça va être sur le mode de l'intérêt financier. Mais il y a exactement cette même congruence qui est cet intérêt individuel bien compris en termes de pouvoir et qui est entendu au sens large du terme, pouvoir politique et économique. Et là-dessus, en effet, enfin, Hobbes est un auteur très intéressant et qui se plante d'ailleurs totalement, parce que moi j'étais à une émission précédente sur un bouquin que j'ai écrit sur le sauvage et le politique, où en fait on voit bien que précisément tu n'as pas d'individu qui crée comme ça une société. Évidemment, la société, elle préexiste.
Ne serait-ce que le fait qu'on soit éduqué par deux parents.
Évidemment.
Par définition, évidemment. Ego et autrui habitent le même cerveau.
Donc, dès lors, tu vas être dans une... l'individu va être pris dans des relations. Il va être pris dans des constructions, à construire, à déconstruire, etc. Bon. Le postulat de Hobbes ne tient pas, et puis en plus avec des fins qui vont être évidemment d'ordre ultra-sécuritaire tyrannique ou d'ordre ultra-crématistique. Tu
me parles il me donne ma terme, transition. Il me donne ma
parce
transition.
Que là, alors, je ne suis pas sûr, je ne crois pas que Hobbes, alors sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas qu'il utilise le terme crématistique. Bon.
On va peut-être le définir juste dès maintenant.
Alors, en fait, crématistique, c'est un terme qui vient d'Aristote et qui consiste à dire qu'il n'y a aucune limite à la richesse et à la propriété. Et pour Aristote, c'était évidemment quelque chose qui était contraire à la vertu du citoyen, dans la mesure où c'est quelque chose qui allait à l'encontre de l'intérêt général qu'on pouvait retrouver dans la cité, etc. Les Grecs eux-mêmes étaient très, très méfiants par rapport notamment aux marchands qui étaient considérés comme roulant juste pour sa bosse et à trahir l'un ou l'autre si son intérêt particulier lui le permettait.
Rappelons tout de suite que dans cette crématistique, donc dans le fait de vouloir tout le temps maximiser la richesse, nous parlions justement, et tu avais posé au début la question, Christiane, mais les chiffres. Souvenons-nous que l'un des paradoxes des mathématiques et de l'arithmétique, c'est l'infini. Il n'y a pas de limite au nombre de nombres. Le nombre est infini. À partir du moment où on décide que l'activité humaine est définie par des nombres, on dit voilà, telle activité humaine, eh bien, elle ne peut se définir que par des nombres, à ce moment-là, immédiatement, la notion d'infini arrive. Et donc, c'est pour ça que la notion de richesse, elle est par nature, elle est attirée par l'infini.
Liée aussi
puisque,
aux chiffres.
Comme elle est sur le chiffre, eh bien, elle ne s'arrête nulle part. Et ça, c'est un des problèmes à la fois de tout le capitalisme et de tout l'usage de la monnaie. À partir du moment où on compte l'activité humaine, eh bien, on a cette tentation, fausse par rapport à la réalité de la planète, que, ma foi, il n'y a pas de raison de se poser une limite.
Mais c'est ça, mais parce que, d'une certaine manière, si... Alors, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à la limite, au contraire, enfin, le chiffre peut être énormément utile, mais ce que tu dis par rapport à l'infini, en effet, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'infini, c'est quelque chose, c'est une notion qui est formidable d'ailleurs, qui est fantastique, qui fait rêver, etc. Bon, mais qui ne va pas prendre en compte, et c'est le propre de cette notion, qui ne va pas prendre en compte la condition humaine, la finitude, en effet, qu'on peut retrouver avec les ressources planétaires, etc. Bon. Donc, le propre, à la base de la d'une comptabilité bien pensée, c'est précisément d'être aussi politique, au sens où elle va... Tu peux donner des limites à cet infini. Enfin, tu vois, il y a le... À le mettre dans ces justes mesures qui vont être décidées démocratiquement, etc. Bon, et après en fonction de critères plus ou moins objectifs. Mais l'acrématicique, le problème, et qu'on va retrouver dans nos sociétés capitalistes actuelles, c'est qu'en effet, tu n'as aucune limite. Donc c'est une forme d'anti-politique. C'est l'idée que la société ne peut rien, qu'on va être sur des critères uniquement de type objectif, sur l'efficacité, etc. Et on s'arrête là. Bon, mais on n'a pas compris que, en réalité, c'est une vue complètement pervertie qu'on avait de ça. C'est-à-dire que...
On pourrait presque dire une vue fétichiste.
Bah, ou fétichiste, c'est-à-dire
au sens psychanalytique du terme, où il n'y a plus que le fétiche qui compte pour le pervers.
Mais parce que surtout, l'idée que tu puisses avoir une action ou une exploitation totale et une production infinie de la richesse est complètement délirante.
Et délirante à nouveau, au sens psychopathologique du terme.
Psychopathologique du terme, complètement.
Christiane, tu avais une question.
Oui, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, au-delà de la pathologie, est-ce qu'il y a certainement une possibilité de détourner cette comptabilité et d'en faire un instrument, disons, de critique et de révolte? Parce qu'il arrive effectivement, ça, on a bien compris, on est complètement manipulé, etc., avec ce côté infini, machin, etc. Ouais. Mais comment détourner? Parce que là, je lis aussi un truc sur les chiffres et on peut se les réapproprier et l'envoyer, c'est retour à l'envoyeur.
Complètement. Alors, c'est une des thèses, notamment, moi je me suis beaucoup intéressé à des comptables qui s'appellent notamment Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui ont développé une comptabilité qui s'appelle la comptabilité CARE, qui commence à avoir une certaine audience maintenant. Alors moi, j'ai été un des premiers avec ce bouquin à en parler. Et eux, ils disent bien ça, comme je le disais en début d'émission, ils disent, mais en fait, le problème déjà de la gauche, de beaucoup de gens critiques du capitalisme, c'est qu'ils n'ont pas compris que le capital, c'est pas le capital financier. Bon. Déjà, quand on a compris ça, on a fait un énorme pas. Bon. Et donc, eux, ce qu'ils vont dire, c'est le fait que pour changer complètement le logiciel, en fait, il faut passer notamment la nature et l'humain aussi dans le passif au même titre que le capital financier. C'est-à-dire qu'il faut les comprendre comme des dettes et pas comme des ressources, c'est-à-dire comme des moyens qu'on peut utiliser à n'importe quelle fin. C'est-à-dire que, alors, souvent, d'ailleurs, il y a des malentendus quand on parle, parce que si on dit on va passer l'humain et la nature au passif comme dette, on va parler de capital humain et de capital naturel. Et ça, évidemment, ça sonne bizarrement à nos oreilles. On se dit, justement, au contraire, ça va être de simples moyens comme le capital financier. C'est quelque chose de complètement inacceptable. Alors, ils disent, non, en fait, au contraire, il ne s'agit pas du tout de considérer la nature ou l'humain comme un prix, parce que là aussi, il faut bien s'entendre sur les choses, c'est pas un prix qu'on donne sur les choses, c'est l'idée d'un coût de maintien. Donc, il s'agit pas de mettre un prix comme une étiquette, mais de dire, qu'est-ce qu'on doit réparer ou investir pour faire en sorte que la nature soit préservée. Qu'est-ce qu'on doit investir pour que les humains aussi qui travaillent soient préservés dans de bonnes conditions, etc. Et tout ça, ce sont des normes qui doivent être décidées aussi collectivement. Bon. Mais donc, du coup, c'est considérer l'écosystème et les travailleurs non plus juste comme des ressources, mais comme des personnes envers lesquelles l'entité entreprise est endettée.
Excuse-moi de t'interrompre, ça m'a fait penser à une phrase à la fois très simple et extrêmement riche de Kant sur la morale. Ouais. L'un des impératifs catégoriques de la morale, selon Kant, c'est de ne jamais considérer autrui seulement comme un moyen, ouais. comme mais toujours fin. Aussi comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer... Alors, c'est autrui, c'est la nature, c'est tout ça. Ouais, ce ne sont pas que des moyens, ce sont également des buts.
Ouais,
et je voudrais rajouter ceci. Alors, j'espère qu'un jour, j'arriverai enfin à le faire publier. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. Il y a un monsieur mort maintenant qui s'appelait Monsieur Pellebois et qui parlait sur les histoires de normes et de trucs juridiques des entreprises. Il a eu une idée extrêmement simple. Il a dit, bon ben, pour faire changer de direction le capitalisme, il y aurait un truc très très simple. À chaque fois qu'on va acheter quelque chose à une entreprise, on en devient actionnaire. Les clients deviennent automatiquement les actionnaires, avec quand même une partie du pouvoir qui resterait aux mains du personnel de l'entreprise, mais les clients deviendraient les actionnaires. Et là, une fois qu'on a compris ça, on réfléchit, on se dit, mais tu vois, c'est comme en mathématiques, quand tout d'un coup tu décides de changer le signe. C'est plus positif, c'est négatif. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre l'idée de nombre négatif, puis quand j'ai compris, je me dis, waouh, on comprend que les mathématiciens, ça les a beaucoup
excités. C'est intéressant, ça.
Et là, c'est pareil, on se dit... Si tout d'un coup, on inverse le sens du transfert de richesse, de pouvoir, de dette, etc., on dit, vous achetez, donc vous devenez actionnaire dans l'entreprise. Et plus vous allez acheter, plus vous allez devenir un gros actionnaire de l'entreprise. Et alors là, il aurait dû y avoir une...
Archived landscape, gold, jet set before and gone. Location of love, stay her own, protected and alone. Mother and son, producing my addictions, vaporizing dust alone. Mother and son, producing my addictions, vaporizing air to dust. She finds herself alone, walking in circles, walking in circles. Always get back home. And all sweat. And honey, and all milk and blood. Born and red on her long legs, lie with the same river. Lie with the same river. Lie with the same river. She's walking in circles. I can't let's get gorgeous life with the sand river. Life with the sand river. Life with the sand river. Life with the sand river.
Et ben c'était donc cette fois-ci Winter Family, Archaic Landscape.
Alors, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans dette, sans taux d'intérêt et sans normes comptables. Et nous venons de parler du livre surprenant et beaucoup plus intéressant que son drôle de titre « Quelle norme comptable pour une société du commun ?» point d'interrogation. Un livre d'Édouard Jourdain publié chez Charles Léopold Mayer. Et nous en étions venus quand même à parler de ce drôle de concept qu'est l'infini. Et quand on commence à parler d'infini, bien évidemment, on s'attend à parler de religion. Alors, Édouard Jourdain, il a pondu un autre livre qui m'a également énormément intéressé, Théologie du capital, et c'est sorti chez PUF. Et bien entendu, je dois avouer que, ayant moi-même pondu un truc qui s'appelle « Comment fabriquer une religion ?», je me suis dit, eh bien voilà, les grands esprits se rencontrent entre Jourdain et Édouard. Et très bon Jean-Manuel, il y a de quoi parler. Alors, il y a une chose déjà qui m'a tout de suite plu dans ton bouquin « Théologie du capital », c'est la citation de Proudhon que tu fais. Et cette citation, la voici. « Qu'on se raille, si l'on veut, de mes prétentions théologiques. C'est une étude que je n'ai jamais quittée. » et qui me paraît encore la plus belle de toutes et la plus féconde. C'est au désir de pénétrer les mythes religieux que je dois d'avoir appris le peu que je sais. Et ça, c'est donc dit par Proudhon, l'un des fondateurs d'un théorique de l'anarchisme. Et toi, donc toi Édouard Jourdain, dans ton introduction, tu as une phrase avec laquelle je suis complètement d'accord, et j'ai été ravi que tu le prouves dans ce livre. Tous les concepts de l'économie moderne sont des concepts théologiques sécularisés. En d'autres termes, toutes les notions opératoires dans l'économie moderne, tu affirmes, et je t'approuve vigoureusement, ont toutes leur origine dans toutes les bizarreries que les religions du monde ont créées. Alors, est-ce que tu as également une autre phrase qui dit que la modernité a posé un voile de rationalité cartésienne sur les sources religieuses du capitalisme et de l'économie. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un premier exemple de ça ?
Oui, alors, c'est vrai que ce qui m'intéressait dans cet ouvrage, c'est une sorte d'enquête aussi généalogique du système économique dans lequel on se trouve. Et très souvent, dans tous les manuels d'économie, tu retrouves cette idée que, finalement, l'économie capitaliste, c'est la plus rationnelle possible. Tu sais, on va être sur les théories des jeux, sur l'acteur rationnel, etc. Bon. Et en fait, quand tu creuses un peu, quand tu travailles sur les catégories de l'économie politique, qui sont, en gros, alors j'ai plus tous les chapitres en tête, mais la propriété, le marché, la comptabilité, on en parlait, le taux d'intérêt, le travail, etc., en réalité, toutes ces catégories, y compris encore aujourd'hui, sont grosses d'une généalogie religieuse. Ou en tout cas, se sont développées, se sont inscrites dans des contextes religieux. Alors, avec une évolution, évidemment, qui a été très, très importante, mais néanmoins, il ne faut pas oublier cette origine. Donc, l'origine de... je parle par exemple, on parlait de la monnaie un petit peu auparavant avec la comptabilité. Bon. On a le discours complètement mythique d'Adam Smith qui nous dit « La monnaie, ça sert à quoi ? Ça sert à de l'échange. Bon. » Et il nous dit « Le propre de l'économie, d'ailleurs, c'est l'échange. Il a sa célèbre phrase où il dit « On n'a jamais vu... » et c'est le propre de l'humain aussi. Où il dit « On n'a jamais vu un chien échanger un os contre un autre chien. » Bon, très bien. En effet, il a raison. Bon. Mais cela dit, ça ne veut pas du tout dire que la monnaie est issue de l'échange. L'échange, et ce que j'essaie de montrer notamment dans un de mes chapitres, la monnaie, elle est en réalité issue de la notion de sacrifice. Bon. Et sacrifice, c'est du coup comptabilité avec la notion de caput aussi, de capital, etc. Donc la monnaie, à l'origine, c'est une monnaie de stock et ce n'est pas du tout une monnaie d'échange. Hein, et ça, toutes les études anthropologiques le montrent. Donc, Adam Smith, gros mytho. Bon. Cela dit, et par exemple, c'est très intéressant, sur la question du marché, bon, si on revient sur l'échange. Bon. Adam Smith, qui nous dit dans son étude sur la richesse des nations, mais y compris sa théorie des sentiments moraux, parfois certains auteurs veulent opposer les deux, il y aurait le méchant...
Excuse-moi de t'interrompre, je rappelle que c'est un livre très important d'Adam Smith sur la théorie des sentiments moraux. On en parle peu dans l'univers francophone, alors qu'on en parle beaucoup plus dans l'univers philosophique anglophone.
Oui, c'est vrai,
anglophone.
Parce que c'est cette dimension morale. Bon. Mais parfois, on va opposer, enfin certains auteurs vont opposer le bon Adam Smith de la théorie des sentiments moraux sur la philosophie morale et le méchant Adam Smith dû à marcher dans la richesse des nations, alors que pas du tout. Enfin, c'est un système qui est très logique, et on retrouve des liens entre les deux. Et lui, qu'est-ce qu'il dit même dans sa théorie des sentiments moraux, hein, il dit bon, bah, écoutez, le marché, hein, c'est la main invisible. Et c'est la main invisible de Dieu, hein, en réalité. Et s'il y en a qui se prennent les pieds dans le tapis, qui se retrouvent sans boulot, qui sont dans la misère, etc., bah, c'est pas grave. C'est quoi ? Alors, c'est pas le destin, c'est la providence. C'est la providence. Et donc ça, toute sa théorie du marché repose en réalité sur la théologie chrétienne de la providence. Donc ça aussi, quand je suis tombé là-dessus, je suis tombé des nues. Moi, je pensais que voilà, le marché, c'était simplement quelque chose, enfin un modèle en tout cas rationnel, où on avait une offre, une demande qui s'ajustait, etc. Mais pas du tout, je ne pensais pas du tout que c'était justifié, en tout cas idéologiquement, avec la théologie de la providence. Bon. Et ça, tu as plein d'autres exemples comme ça. Moi, je reprends les catégories les plus centrales aussi, comme le travail, alors qui à l'origine est une notion d'ailleurs qui est très qui est maudite, hein, par les religions. Il n'y a rien de pire que le travail, et dans une certaine mesure d'ailleurs elles ont raison. Et Adam, lorsqu'il est condamné pour avoir péché, bah, il doit se mettre au turban. Bon,
tu gagneras ton pain
à la sueur de ton front. Bon, mais ce que les religions, et c'est là...
Est-ce que maintenant, également, dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Marie et de Marthe. Oui, je crois que c'est ça. C'est, je confonds les deux, mais enfin, il y en a une des deux. Jésus arrive dans une famille, et il y a deux sœurs. Il y en a une qui fait la bouffe, qui fait le repas, qui travaille, qui est là, et puis il y en a une autre qui se met au pied de Jésus et qui l'écoute. Et Jésus dit que c'est elle qui fout rien, qui est à ses pieds, que c'est elle qui aura le ciel, parce que c'est la part contemplative qui est la plus belle. Et celle qui marne, celle qui travaille, désolé, c'est pas le bon choix.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que dans la religion, il y a cette idée quand même qu'il faut avoir du temps pour célébrer Dieu ou les dieux, etc. Et en réalité, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, on travaillait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors après, s'il faut relativiser, évidemment, il y a des cas d'esclavage, de personnes qui sont particulièrement exploitées, etc. Mais en règle générale, même le paysan du Moyen-Âge, il travaillait un tiers de l'année. Bon, il y avait énormément de jours chômés pour
de jours saints,
tout simplement, de jours fériés. Mais c'était aussi, enfin, c'était pas que, je pense, dans la perspective de il faut se soumettre à des dieux, les prier, etc. Je pense que ça participait d'une forme d'hygiène sociale aussi et de régulation, tout simplement. Si vous travaillez comme des malades, vous allez péter un boulard, quoi. À un moment, la société, elle va péter. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et d'autant plus que un des premiers écrits de Proudhon, d'ailleurs, s'appelle la célébration du dimanche. Et en fait, il met en exergue ça et dit, si les capitalistes veulent bouffer le dimanche, faire en sorte qu'on travaille le dimanche, etc., là, c'est foutu. En fait, y a plus rien n'est sacré, tout se vaut, on va se faire bouffer par l'utilitarisme capitaliste.
Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est marrant
et qu'un anarchiste... Nous sommes directement avec la réforme des retraites, où on voit que dans la tête de Macron, la seule chose à faire dans la vie, c'est bosser, bosser, encore bosser. Lui-même, certainement, se lève à 5h du matin, dort, va dormir à 2h du matin ou à 3h du matin, et passe sa vie, effectivement, à bosser, et veut absolument que tout le monde fasse comme lui.
Tu sais que t'as, ça me fait penser, t'as cette histoire, alors je sais pas d'où elle vient exactement, je pense qu'il y a eu plusieurs versions. C'est un mec, alors, je sais pas, au Mexique, ou je sais pas où, qui pêche sur, dans une rivière qui est vraiment à la cool, avec son petit chapeau de paille, avec sa famille, joue de temps en temps avec ses gosses, etc. Et puis, t'as le gringo américain avec le cigare qui débarque, et puis il dit, mais qu'est-ce que tu fous, là, gros glandeur? Regarde, t'as une rivière, t'as plein de ressources. Pourquoi tu montes pas une entreprise? Pourquoi tu montes pas une entreprise de pêche avec un bateau? T'emploies 3-4 pêcheurs, tu fais fortune, ça cartonnerait. Là, moi, je te trouve des marchés juste à côté, etc. En quelques années, tu deviens millionnaire. Puis le gars lui demande, mais qu'est-ce que je ferais du coup avec tout ce pognon, etc. Bah, tu pourras te la couler douce, pêcher au bord d'une rivière, jouer avec tes enfants, etc. Ah, tu vois, et du coup, connard, c'est ce que je fais là, en fait.
J'y suis déjà. Absolument. Alors, je voudrais revenir sur un mot que tu as utilisé. Et là, c'est un retour égoïste, parce que c'est pour revenir à mon bouquin, Comment fabriquer une religion. Et à nouveau, nous avons constaté tous les deux que nos livres se rencontrent.
On est en dialogue complètement. Oui.
Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice, en fait? Et donc, moi, j'explique dans mon bouquin que le sacrifice, c'est le lien avec le cœur de la religion. Donc, le cœur de la comptabilité, c'était cette notion que le seul individu valable et important, c'est l'investisseur. Ouais. Et le cœur de la religion, c'est quoi? Une fois qu'on a inventé des dieux infiniment plus puissants, et surtout qui ont toute puissance sur nos vies, ben on est très inquiet parce qu'on voudrait bien qu'ils agissent pour nous. Et le cœur de la religion, en réalité, c'est de se dire, il faut absolument que j'achète la bienveillance du divin. Et le cœur de la religion, c'est quoi? Ben, c'est le contrat qu'on essaie de passer avec le divin, sous quelque forme qu'il soit. Et qu'est-ce que c'est que le sacrifice dans ce contrat? Eh ben, c'est la dette qu'on doit payer. La bienveillance de Dieu s'achète, et elle s'achète de quoi? Ben, tu vas sacrifier un bœuf, deux chèvres, trois oies. Et on s'aperçoit que dans tous les actes religieux, il y a toujours, systématiquement, une dimension contractuelle. Et quand tu parles même de ce loisir, parce qu'effectivement, l'une des forces de la religion, c'est que c'est une hydre, c'est quelque chose qui ne se limite pas à un domaine qui touche, et c'est quelque chose qui touche à toutes les institutions et les domaines de la vie, eh bien, le loisir, c'est également une manière d'acheter la bienveillance du divin, parce qu'on va consacrer le jour de loisir, officiellement, au service du divin. L'origine du Shabbat dans la Bible, c'est ça. Alors Dieu, ok, il se repose, on va faire comme lui, mais en même temps, les littéralistes, que ce soit les littéralistes juifs ou les littéralistes protestants, disent, ah mais désolé, pendant le Shabbat, vous ne travaillez pas, d'accord, mais vous consacrez votre entière journée au lien avec Dieu. Donc en réalité, vous payez bien à Dieu du temps que vous avez passé. Donc c'est là l'une des nombreuses preuves de l'aspect totalement théologique du capital ou capitaliste de la théologie. À nouveau, ça a été très amusant tant pour Édouard que pour moi de lire nos deux livres. Ouais. Nous partons de points de départ opposés et nous nous rencontrons au même endroit, qui est que la religion et l'argent, c'est à peu près pareil.
Thank you.
c'est la musique en fait du film After Blue de Bertrand Mandicot. Et pourquoi cet After Blue de Bertrand Mandicot? C'est parce qu'il présente un film à Cannes, là, qui s'appelle Conan, et qui est donc inspiré de Conan le Barbare, mais c'est un Conan au féminin. Et c'est un film qui est absolument génial. Voilà.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans taux d'intérêt, sans normes comptables. Édouard, sans sacrifice de préférence.
Bah écoute, j'espère encore que sur le sacrifice, il y a des ambivalences aussi. Voilà. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier par quelqu'un pour une raison X ou Y?
Mamma mia.
Donc la notion même de sacrifice, c'est pas quelque chose qui est à rejeter nécessairement, mais dans le religieux ou l'économique, etc., il y a en effet cette idée d'un sacrifice vertical qu'on va pouvoir avoir, c'est-à-dire autoritaire, qui va être imposé, et qui souvent... Comme le montre bien Joseph de Maistre, à mon avis, dans un petit bouquin très intéressant qui s'appelle Éclaircissement sur les sacrifices, dit ce qui est propre du sacrifice, c'est pas d'être juste dans l'échange ou dans le don contre don, au sens de l'anthropologue Marcel Mauss, mais bien dans quelque chose de beaucoup plus radical que ça, qui est, dit-il, le sang. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est quoi? C'est faire mourir, c'est tuer, qu'il y a le sang qui coule, quand on égorge même un mouton, ou fortiori des êtres humains, ou quoi que ce soit. Bon, on est dans quelque chose là de radical, au sens presque métaphysique, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est le rapport à la mort et à la vie. Et là, il y a une notion de dette, peut-être, en effet, où l'être humain va être radicalement en dette par rapport à Dieu, aux religieux, etc.
Même chose pour le suicide?
Non.
Ah ben non, c'est l'inverse, le suicide.
Harakiri.
Non, au contraire, le suicide, c'est enlever à Dieu...
Ou alors...
Pardon, tu fais couler le sang, Harakiri?
Oui, mais ça ne va pas être imposé par Dieu.
Voilà, c'est pas divin, le Harakiri, c'est social.
Ou alors c'est une loi sociale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir retrouver, y compris dans les sociétés premières, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est une loi qui va être impersonnelle, alors qu'on pouvait retrouver dans les lois des ancêtres ou des dieux. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas imposé par une autorité, mais plus par le groupe, par la loi en règle générale. Bon.
Si je peux t'interrompre un instant, oui. Joseph de Maistre, là-dessus, il y a une chose de très amusant sur son obsession, effectivement, du sacrifice et du sang. Alors, je rappelle qu'il a écrit une phrase dont je ne me souviens plus exactement, mais qui dit qu'en gros, enlever le bourreau et l'édifice social s'effondre. Hein, le bourreau, pour lui, c'est la pierre angulaire de toute construction sociale.
Et alors, je filerai ta citation par celle de... que rappelait Agamben dans je ne sais plus lequel de ses bouquins, peut-être Homo Sacer, où il rappelle comment un roi, je ne sais pas, c'est pas Henri IV, qui se balade à Paris et qui croise dans les rues de Paris le bourreau de la capitale et le bourreau lui dit « Salut au toi, mon frère ». Où il y a un lien, en fait, très fort entre les deux. Alors, qui est lié au fait que les deux, de part et d'autre, aussi sont des exclus de la société, d'une certaine manière. L'un par le haut avec le roi, et puis l'autre, le bourreau, qui n'avait même pas le droit d'être enterré dans les cimetières, hein, qui était dans des sortes de fosses communes ou planqué dans la forêt. Le gars, souvent, il avait un masque, etc. Bon. D'ailleurs, sur la notion de souveraineté, tu as... Derrida qui montrait aussi en quoi le souverain est à la fois dieu et bête. Enfin, à chaque fois, on est dans cette dimension ultra supérieure ou ultra inférieure en fait
Souvenons-nous qu'il y a des tas de sociétés où on tuait rituellement le roi.
Oui, bien sûr. Le roi sacré qui était régulièrement désingué parce qu'on avait peur aussi qu'il prenne trop de pouvoir, hein. Donc qui était enfermé dans des tours ou attaché à des chaises dans la forêt.
Et quant au sang, je voudrais rappeler que quand j'emmène les gens au Louvre, je leur montre des peintures médiévales, des peintures d'autel, hein, des triptyques, des diptyques, etc. Et où on voit Jésus sur la croix. Et où le peintre fait très attention à faire couler un flot de sang très très rouge, très très clair à partir à la fois de ses mains et de sa plaie sur la poitrine, ça descend en particulier jusqu'à son pubis. Mmh. Alors pour deux raisons, il s'agit de rappeler que Jésus étant censément être à 100% Dieu, 100% homme, il avait aussi une paire de couilles et un pénis comme tous les hommes. Mais c'est également pour rappeler quelque chose de beaucoup plus ancien et également essentiel dans presque toutes les religions. C'est le mythe de l'homme jeune qui donne son sang pour que la vie se renouvelle. Mmh. Et là, à nouveau, donc c'est
de régénération.
Voilà. Demestre, il était complètement là-dedans. Demestre était bien plus primitif qu'il ne l'a jamais lui-même compris.
Bien sûr, hein.
Et cette obsession du sang, c'était cette conception féroce et naïve à la fois. Que si on ne fait pas couler le sang, eh bien on ne va pas pouvoir faire reproduire la vie. Alors, on a réussi sauvagement, férocement, à persuader Édouard de revenir pour qu'on parle plus en long, en large et en travers de théologie du capital. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Édouard, d'avoir accepté sous la menace, la contrainte et le poids des baïonnettes.
Une servitude consentie.
Voilà, servitude volontaire consentie. Et Christiane, aurons-nous une petite pause musicale avant la revue de presse avant les infos du Proton par Lulu ou non, on a quand même une petite pause musicale?
On va mettre une petite pause.
Et alors, attention, ça va gicler. Vas-y.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
C'était donc Rebecca Lane qui chantait Ni Una Menos. C'est une chanson qui vient du Guatemala. Et maintenant, eh bien, c'est le Proton. Les infos du Proton.
Ah. Un mur du son du Canard Enchaîné franchi par Frédéric Arnault, 28 ans, l'un des fistons de Bernard Arnault qui est par ailleurs directeur des montres TAG AOR, dont il vante ainsi le dernier modèle. Il déclare « La Carrera Glassbox ne s'adresse pas uniquement aux jeunes collectionneurs, mais aux jeunes en général. Précision, la toquante en question est tout de même vendue 6500 euros. Moralité, à l'adresse des jeunes en général, si à 20 ans tu ne portes pas des Carrera, c'est que tu as particulièrement raté ta vie. »
Il y a encore 2-3 ans, j'avais pas de montre.
La Chine rêve de devenir un acteur majeur dans le monde du football. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance, selon l'Express. La ligue masculine est en effet minée par des scandales de corruption. Tandis que la plupart des stars étrangères, d'abord attirées par des salaires mirobolants, ont quitté le pays effrayés par la piètre qualité du championnat. Les salaires impayés et surtout les 3 années de confinement liées au Covid. Ce n'est pas demain, la veille, que Xu Ping s'écriera « On est des champions ». Un autre mur du son du Canard Enchaîné, franchi avec aisance par Laurent Berger, le patron de la CFDT, dans une interview au Parisien. Il a commenté la mobilisation du 1er mai. À venir, il faut casser la baraque, avant de préciser en nombre de manifestants. Sauf que c'est la première moitié ou la phrase que les consommateurs ont retenue, et peut-être les casseurs également. Après le Pentagone, voilà l'armée British touché par une fuite. La Marine Royale Britannique vient d'ouvrir une enquête après la découverte de documents officiels au beau milieu des toilettes d'un pub. Ces documents concernent l'un des sous-marins nucléaires d'attaque de la Royal Navy, le HMS Anson. Un indice pour les limites de Scotland Yard. Le pub se trouvait à proximité d'un chantier naval où le sous-marin avait été aperçu quelque temps auparavant. Sans doute l'œuvre d'un marin bien torché. Un feu jaune pour les piétons sera bientôt testé dans 7 villes de France. À l'image du feu orange pour les voitures, le feu jaune pour les passants va leur indiquer le passage imminent au feu rouge. Il permettra de sortir du passage piéton lors du temps de dégagement. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment traverser en prenant un petit air dégagé. Éric Zemmour a affiché bruyamment son soutien aux policiers qui avaient renversé un scooter transportant 3 adolescents, qui furent sérieusement blessés dans l'accident. Quelques jours plus tard, son fils Hugo, qui conduisait une automobile en état d'ébriété, a grillé la priorité à un scooter, provoquant un grave accident qui a envoyé le conducteur et sa passagère à l'hôpital. Jadis élevé au rang de véhicule présidentiel par François Hollande, le scooter n'a pas la cote chez les Zemmour. Pierre Palmade n'est pas le seul animal à être victime d'ivresse et à ne plus savoir se conduire. Au printemps, les chevreuils se gavent de bourgeons sucrés chargés de glucides, au point d'être ivres et de s'aventurer, parfois dans des jardins d'habitation, dans un état d'ébriété qui les rend dangereux. Fort heureusement, ils se hasardent rarement au volant d'une voiture. La couronne impériale posée sur la tête de Charles III est sertie de 2868 diamants et pèse plus de 1 kg. Le service de presse de Buckingham ne fournit aucune précision quant au nombre d'indigènes de l'Empire qui sont morts dans les mines pour extraire ces joyaux.
Je me permettrai de préciser ceci, que Charles III, qui est presque un monarque gauchiste, a refusé qu'on mette dans la couronne de Camilla le Kohinoor, diamant indien, parce que les Indiens réclament qu'on le leur restitue. On voit quand même que c'est un monarque progressiste.
Sommet de s'expliquer après la découverte de deux mineurs de 10 ans dans les cuisines, la direction du McDonald's de Louisville a affirmé qu'il rendait visite à un responsable de nuit. Penaud, la firme a fait savoir que cette présence allait à l'encontre des attentes élevées pour l'ensemble de la marque. En février, les autorités américaines avaient déjà infligé à McDo une amende de 92 107 dollars pour avoir employé illégalement 154 adolescents. Alors que ces vénards avaient la chance de humer des hamburgers toute la journée. L'échec récent du premier vol d'essai de Starship va laisser des traces, et pas seulement à l'ego d'Elon Musk. Le champ de débris ayant touché du décollage et ayant résulté du décollage de la fusée s'est étendu sur 156 hectares, l'équivalent de 300 terrains de football, tandis qu'un incendie a ravagé 1,5 hectare de végétation environnante. De quoi remettre en question la stratégie de Musk, qui de son côté a plaidé le manque de temps. Entre Twitter et SpaceX, les attaques sur le milliardaire n'ont pas fini de fuser. Une nouvelle noix d'honneur du canard enchaîné, décrochée sans casque par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Sommet par une audience de condamner les violences policières. Elle a répondu en direct sur France Inter. Moi, je réprime le terme de violence policière. Réprouver ou réprimer, il faut choisir, et l'innocent et l'inconscient macronien, excusez-moi, et l'inconscient macronien a parlé à bâton rompu.
Et là. Et là, nous avons Christiane qui nous regarde d'un œil dubitatif. C'était donc le Proton se rebiffe sur Radio Libertaire. Et nous vous recommandons à nouveau la lecture de « Quelles normes comptables pour une société du commun » d'Édouard Jourdain, paru chez Charles Léopold Mayer. Et de Théologie du Capital, également d'Édouard Jourdain, paru chez PUF. Et nous espérons donc, en septembre, nous reparlerons de cet ouvrage, Théologie du Capital. Merci Lulu pour la revue de presse. Merci Christiane pour la technique.
C'est le 18 septembre qu'Édouard
18
revient.
Septembre.
Le lundi 18 septembre. Coincé, il est coincé. Bon, quand même, je vous mets quelque chose pour finir qui soit un peu plus doux. Where are you calling?
toll booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something we both know what memories can bring. They bring diamonds and
toujours sur Radio Libertaire et Christiane va nous dire quelle était la musique qui vient d'être entendue.
Eh bien, c'était Diamond and Rust de John Baez.
Magnifique, donc les diamants et la rouille. Alors, nous nous retrouverons pour le prochain Proton sur Rebif le 5 juin à 21h.
Voilà, et samedi prochain, il y aura évidemment les
Excuse-moi de t'interrompre d'un coup, Christiane. C'est pas des muses, ça, plutôt, parce que c'est un premier lundi, ça, je sens le coup venir. Le 5 juin, c'est les muses, s'amuse.
C'est les muses
Bon.
On est sur les deux émissions.
Donc. On est sur les deux émissions. On vous retrouve le premier lundi de chaque mois pour les muses s'amusent, le troisième lundi de chaque mois pour le Proton se rebiffe.
Voilà. Et puis donc, samedi prochain, donc évidemment, il y a les Chroniques Rebelles, mais surtout, il y a la fête des 20 ans de CQFD qui se passe à Parole Errante. Et donc, 20 ans. Qu'on a les crocs, disent-ils, avec un numéro spécial qui évidemment est paru en kiosque. Eh bien, à bientôt.